France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
De juin 1954 à février 1955, le gouvernement de Pierre Mendès France ne vécut que 7 mois et 17 jours. Mais ces quelques mois de présidence du Conseil ont suffi à inscrire son nom parmi ceux qui ont compté dans l'histoire politique de la France du XXe siècle. Évoquant ce que fut l'action de son gouvernement, le numéro de l'Histoire en direct de 1991 que nous allons entendre permettra de mieux comprendre pourquoi, en dépit de la brièveté de son passage à Matignon, Pierre Mendès France demeure encore aujourd'hui une référence morale dans la manière de concevoir la politique et l'exercice du pouvoir. En rappelant plus particulièrement comment il extirpa notre pays du bourbier indochinois et ouvrit la voie à l'indépendance de la Tunisie, cette émission cernait la personnalité de Pierre Mendès France et le style qu'il imposa au sommet de l'État. Avec des extraits de ses causeries radiophoniques, de ses discours et les témoignages de quelques-uns de ses proches collaborateurs, Jean-Marie Soutou, Claude Chesson et André Bettencourt, de l'ancien directeur du Monde, Jacques Fauvet, mais aussi de l'opposant très critique à sa politique que fut Pierre-Henri Tedjen, l'histoire en direct, le gouvernement de Pierre Mendès France, juin 1954, février 1955, première diffusion le 4 février 1991, sur France Culture.
Histoire en direct. Juin 1954, Mendès France au pouvoir.
Ce 18 juin, jour où j'assume des responsabilités dont je mesure tout le poids, se trouve être aussi un anniversaire célébré en commun par les Français qui, aux heures les plus tragiques de notre histoire, avaient conservé l'espérance et qui devaient entreprendre de lutter ensemble pour leur libération. L'homme qui vous parle a, vous le savez, une tâche immense à accomplir. Il y consacrera toute son énergie, avec le concours de tous, avec la paix que nous espérons retrouver, la nation recevra les récompenses de son effort en reprenant les grandes voies de son destin.
Le 18 juin 1954, les Français découvrent la voix et le nom d'un nouveau président du Conseil, le 18e chef du gouvernement français en 9 ans. Pourquoi cet homme marquerait-il plus que ses prédécesseurs l'histoire d'une 4e République impuissante qui voit tomber les gouvernements tous les 6 mois? Mais l'homme que les Français entendent à la radio ce 18 juin 1954 n'est pas comme les autres. C'est Pierre Mendès France. Ce membre du Parti radical, député de l'Eure à 25 ans, membre du gouvernement Léon Blum en 1936 et du gouvernement du général de Gaulle en 1944, vit depuis cette date en marge du sérail politique et d'un système dont il condamne l'impuissance à résoudre les problèmes de la France d'après-guerre. Problèmes des institutions, problèmes économiques et financiers, problèmes sociaux, problèmes coloniaux, problèmes européens. Incapable de trouver une majorité pour les résoudre, les prédécesseurs de Mendès France ont évité de les aborder et ils les ont laissés s'aggraver comme la guerre d'Indochine qui dure depuis plus de 7 ans. En 1954, elle provoque la chute du gouvernement Laniel, victime du désastre de Dien Bien Phu, et l'arrivée au pouvoir de Mendès France qui réclame depuis longtemps une solution négociée. Il l'avait déjà réclamée en 1953, quand le président de la République lui avait proposé de former un gouvernement. L'Assemblée ne l'avait pas investi, mais lorsqu'en juin 1954, un mois après Dien Bien Phu, il se présente à nouveau devant elle, et promet aux députés de régler le problème en 4 semaines, il obtient une majorité jamais obtenue par un président du Conseil depuis 1945. 419 voix contre 47. Même les communistes votent pour lui et sortent de l'opposition pour la première fois depuis 1947, subjugués par ce président du Conseil, dont la détermination contraste dès le premier jour avec l'inconsistance de la plupart de ses prédécesseurs.
Mesdames, Messieurs, je me présente devant vous, investi par Monsieur le Président de la République de la même mission qu'il y a un an, presque exactement. Voici qu'apparaît aujourd'hui une nouvelle et redoutable menace. Si le conflit d'Indochine n'est pas réglé, et réglé très vite, c'est le risque de la guerre. De la guerre internationale et peut-être atomique qu'il faut envisager. Il faut donc que le cessez-le-feu intervienne rapidement. Le gouvernement que je constituerai se fixera, et il fixera à nos adversaires, un délai de 4 semaines pour y parvenir. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin, je me présenterai devant vous le 20 juillet et je vous rendrai compte des résultats obtenus. Si aucune solution satisfaisante n'a pu aboutir à cette date, vous serez libéré du contrat qui nous aura liés et mon gouvernement remettra sa démission à Monsieur le Président de la République.
J'ai des souvenirs très précis de cette séance.
Jacques Fauvet.
On a vu un Mendès dans toute la possession de ses moyens, sûr de lui, dialecticien, donc raisonnant, et mettant l'Assemblée devant le fait accompli. Et il s'est montré là l'homme qu'il a toujours été. C'est un homme volontaire jusqu'à l'entêtement, mais extrêmement intelligent, donc habile. Et quand il a dit à la tribune de l'Assemblée que si la paix n'était pas rétablie en Indochine avant le 21 juillet, qu'il donnerait sa démission, non sans avoir mobilisé le contingent et à l'envoyer des troupes du contingent en Indochine pour que son successeur ne soit pas devant une situation militaire inextricable, alors qu'elle l'était déjà considérablement après la chute de Dien Bien Phu, cette politique du calendrier qui consistait au fond à quoi ? À mettre un terme rapide à des situations qui avaient abouti à des impasses et que depuis des années, aucun gouvernement n'avait réussi à résoudre.
C'est nouveau ça comme style, Jacques Fauvet. D'ailleurs, au fond, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on garde de Mendès France un souvenir particulier. C'est un des rares présidents du Conseil à avoir marqué la 4e République. C'est ce style Mendès France, vous l'avez bien connu vous-même.
Écoutez, je l'ai bien connu, en effet. Le style de Mendès France se distinguait du style de ses prédécesseurs et de ses successeurs. D'abord, c'est un homme d'action. C'est un homme de pensée, mais un homme d'action. Il croyait à l'action et non pas à l'inaction et au renvoi sans cesse des problèmes en suspens.
Je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs, de cet accueil chaleureux. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en ce moment, tout le monde marche au chronomètre. Depuis que M. Mendès France a pris entre ses mains les rênes de la 4e consolidée, on marche au chronomètre. Je fus à sa séance d'investiture, durant laquelle il dit « Mesdames et messieurs, je tiens à vous dire que si vous m'accordez l'investiture, je suis en mesure, je peux le dire, de vous accorder la paix en Indochine dans 28 jours. Qu'ont fait les autres ? Alors, ils ont dit, eh ben, on va bien voir. Et ils l'ont investi davantage par curiosité que par confiance. Eh bien, nous avions eu les 28 jours de Clairette, nous avons eu les 28 jours de Mendès. Au bout de 28 jours, Mendès France nous amenait la paix. Et là, je dois dire, mesdames et messieurs, nonobstant votre respect, mais employant une vieille formule montmartroise, le monde entier en fut sur le QT. Je vous assure que c'est un type du tonnerre. Il est formidable, mais formidable à un tel point que nous autres chansonniers, nous en sommes gênés. Parce que nous, ce qu'il nous faut à la tête du gouvernement, c'est les bons connards. Avec l'Agnel, on était gâtés.
Premier parlementaire pressenti, M. Mendès France a enlevé l'investiture de l'Assemblée en réunissant sur son nom l'importante majorité de 419 suffrages. Il était en mesure, 37 heures plus tard, ce qui constitue un record, de présenter son cabinet au président de la République pour le cliché traditionnel. Moins nombreux que le précédent, on y découvre 10 visages nouveaux. La première tâche du nouveau gouvernement sera de mettre un terme au conflit indo-chinois.
Le 18 juin 1954, ce n'est pas seulement un nouveau président du Conseil qui arrive au pouvoir. C'est un nouveau style qui s'impose et qui plaît aux Français. Comme Antoine Pinay, 2 ans plus tôt, Pierre Mendès-France sait leur parler. Il fait descendre la politique de son piédestal et se met en prise directe avec l'opinion, en passant par-dessus la tête du Parlement. Contrairement aux usages, il ne marchande pas le soutien des partis politiques en négociant avec leurs dirigeants. C'est lui qui désigne ses ministres. Mais plus que sur ses ministres, il s'appuie sur ses collaborateurs immédiats, comme Georges Boris, Léon-Georges Picot, Simon Nora, Claude Chesson, Michel Jobert, ou Jean-Marie Soutou qui se souvient de sa première rencontre avec Mendès-France.
Elle a eu lieu dans son cabinet. Je découvris pour la première fois cet extraordinaire bleu de la joue. Je me souviens qu'il sortait des mains de son coiffeur qui était venu le raser dans son bureau. Et le bleu était à peine atténué. Et il avait déjà un œil assez inquisiteur, mais en même temps un sourire très affectueux.
Le bleu de la joue, le coiffeur qui venait tous les jours, il y avait un rite aussi chez Pierre Mendès-France, il y avait le lait, il y avait la sieste. Vous vous souvenez
de
tout ça ?
Je me souviens de tout ça. Ce qui était remarquable chez lui, c'était l'importance des rites, le coiffeur, le lait, les réunions à des heures très précises, très régulières.
Et dans son rythme de travail, comment est-ce qu'il travaillait ? Je crois qu'il était capable de traiter 26 dossiers à la fois.
Oui. Il avait une très, très grande capacité de travail. On sentait qu'il préservait cette capacité par une sorte d'assaise et de volonté tenace. Certains jours, on le sentait épuisé.
Il avait une manière de travailler tout à fait remarquable. D'abord, c'était un travailleur infatigable.
André Bettencourt, secrétaire d'État à l'information.
Mais ce dont je me souviens, c'est qu'en ce qui me concerne, je ne sais pas s'il le faisait avec les autres, mais tous les soirs, je lui apportais des notes que je remettais à Madame Georges Picot, que je lui remettais à lui-même au moment du dîner. Et le lendemain, à 9h, sur mon bureau, toutes les notes étaient revenues avec en marge les annotations du président, ses observations et les indications sur ce que j'avais à faire. C'était une manière de travailler extraordinairement pratique. Moi, je me suis très bien entendu avec lui. On disait qu'il n'avait pas toujours le caractère facile. En fait, jamais avec lui, je n'ai eu la moindre ombre au tableau. Et je lui ai porté la plus respectueuse amitié jusqu'à la fin.
La coopération, la collaboration avec Mendès était très facile. Je me souviens que notre ambassadeur à Londres, René Massigli, qui avait connu tous les personnages de la Troisième République, me disait de Mendès, pour faciliter mes rapports avec lui, me disait ce mot fameux qui s'appliquait à je ne sais plus quel personnage de la Troisième République, c'est un buisson d'épines, mais les roses poussent à l'intérieur. Et je ne tardais pas, en effet, à découvrir les roses. Il y avait beaucoup de sensibilité et il y avait un immense besoin d'amitié, d'affection. Il aimait que ses collaborateurs voient en lui autre chose que le président du Conseil.
Mais c'était un homme de communication. D'abord, il avait un langage très clair Et au-delà du Parlement, il visait à toucher l'opinion. D'où ces causeries au coin du feu du samedi, mais aussi un langage suffisamment clair, encore une fois, pour qu'il soit compris de tous. Et il a réussi, au moins jusqu'à sa chute.
Ces causeries au coin du feu, vous en avez, je suppose, entendu, c'était tous les samedis régulièrement ?
Sans doute, puisque vous le dites, c'était les samedis, mais c'était une première, puisqu'à présent, toute la vie politique se concentrait au Parlement, et c'est ce que les parlementaires, nombre d'entre eux, ne lui ont pas pardonné. C'est-à-dire que d'essayer de jouer le pays, sinon contre le Parlement, du moins en dehors du Parlement. Ce que de Gaulle a fait parfaitement quelques années après, parce qu'il y avait des points communs entre les deux hommes, ce goût de l'action et en même temps cet art de la communication. Et l'un et l'autre l'avaient au suprême degré.
Nous nous retrouvons, après une semaine de travail, dans le calme de cette soirée de samedi. Voici une semaine qu'a été constituée dans un temps record le nouveau gouvernement. Cette semaine, vous avez pu vous en apercevoir, a été chargée. Je tiens maintenant à venir m'entretenir avec vous. Mon propos n'est pas de vous donner de grandes nouvelles ni de vous annoncer des décisions importantes que vous ne connaissiez déjà. Non, l'objet principal de cette allocution est de vous dire mon intention de m'adresser régulièrement à vous, pour vous parler en toute simplicité, comme ce soir, et vous tenir au courant de ce que fait et de ce que pense le gouvernement qui est votre gouvernement. L'Assemblée nationale m'a fait une large confiance, mais je ne pourrai pas remplir ma lourde tâche si cette confiance n'est pas partagée par vous. Il serait réconfortant, encourageant, prometteur pour les uns et pour les autres, que s'établisse entre le gouvernement, les représentants du pays et l'opinion une sorte d'intimité, j'ose dire affectueuse. Il n'y aurait alors pas d'obstacle sur notre route que nous nous serions assurés de surmonter tous ensemble.
Il intervenait tous les samedis et figurez-vous que ça a eu une énorme importance, ça ne vous étonnera pas, mais que ça a eu une influence terrible sur son propre sort. Car en réalité, cette intervention du samedi gênait beaucoup de gens dans le milieu politique. Il s'adressait effectivement chaque semaine en direct à la France, chaque fin de semaine, je crois que l'émission avait lieu le samedi, elle était très écoutée, et les Français avaient pris l'habitude de l'entendre. Et c'était la première fois qu'en France, un président du Conseil s'adressait ainsi chaque semaine à la population. Le président avait un grand talent oratoire, et un sens pédagogique très avisé. Et voilà, qui en effet était insupportable pour un certain nombre de gens. Et je crois que ça a été pour un peu dans son départ.
Mendès, un nouveau style. Mendès, sortant des ombres élevées de l'économie et de la finance, des comptes de la nation et de ses travaux essentiels mais inconnus et imperméables au grand nombre, aborda les problèmes généraux de la politique du pays et y jeta une intense clarté. Il démontre que tout se tient, économie, diplomatie, guerre et finances. Cette clarté plaît aux Français, surtout aux Français perdus au milieu des difficultés innombrables. Depuis la fin de la guerre, il semblait qu'on n'en sortait pas. Elle plaît d'autant plus qu'on perçoit derrière elle non seulement une valeur d'exposé, mais encore une volonté de décision. Pierre-Olivier Lapi.
À l'heure actuelle, mon premier objectif est qui absorbe tout mon temps, et le règlement d'une guerre dont nous souffrons tous. Il y a 8 jours, l'Assemblée nationale, en votant mon investiture, a fixé, comme vous le savez, un délai précis à nous-mêmes et à nos adversaires pour qu'un cessez-le-feu intervienne en Indochine. Demain, dimanche, sera un jour de repos pour vous. Un repos dont je ne pourrai pas encore prendre ma part cette semaine. Puis-je vous adresser une demande personnelle à chacun de vous? Oui, je vous le demande. Ne laissez pas s'écouler ce dimanche sans avoir réfléchi au moins quelques instants à cet appel que je viens de vous faire, à cette aide que chacun de vous doit m'apporter. Bonsoir et à samedi prochain.
Ce sera pour aujourd'hui ou ce ne sera jamais, déclaré M. Mendès France le 20 juillet, après un dernier entretien avec M. Molotov. cette fermeté devait avoir raison des derniers obstacles. Avec l'aide totale et sans réserve de M. Eden, le chef du gouvernement français pouvait tenir sa promesse. Au jour de l'échéance, le cessez-le-feu en Indochine allait être proclamé. Au Palais des Nations, au cours d'une très sobre cérémonie, le général Deltey signait au nom de la France les documents mettant fin aux hostilités au Vietnam et au Laos, et au nom du Viet Minh, M. Tha Quang Vu les paraphait à son tour. Cet accord, qui clôt sur un acte positif la conférence de Genève, est un éclatant succès personnel pour M. Mendès France, dont la ténacité a fait une profonde impression sur l'opinion mondiale. Certes, l'accord contraint la France à des sacrifices douloureux, mais pouvait-il l'être davantage que la perte des 92 000 combattants de l'Union française tombés dans cette guerre sans espoir ?
Claude Chesson, vous étiez à Genève, au Palais des Nations, quand fut signé le cessez-le-feu en Indochine. Quels étaient les sentiments de Mendès France ?
Moi, je ne suis pas objectif quand je parle de Pierre Mendès France. Il a été peu de temps, mais il a été le seul vrai patron politique que j'ai eu. Donc, je vais décrire sa réaction de manière un peu trop émotive, affective. Plusieurs sentiments. Un, ça y est. Cette fin de guerre d'Indochine qui était indispensable depuis des années, ben c'est fait. Deux, on va donc pouvoir s'occuper d'autre chose. Car si j'ai souhaité la fin de la guerre d'Indochine, c'était pour m'occuper d'autres problèmes. D'autres problèmes coloniaux et surtout des problèmes français. La reconstruction de l'économie française, la remise en route de ce potentiel français par une politique économique, et Mendès repense à tout ce qu'il n'a pas pu faire dans le passé, les domaines où il n'a pas été suivi par le général de Gaulle. Ce dossier, il peut être mis de côté. Mais aussi, car Mendès est un nationaliste, d'une certaine manière, mais aussi un sentiment de, je dirais presque d'échec. Pas pour lui, mais pour la France. En être arrivé là, dans un pays où nous avions tant de possibilités.
Voici l'une des arrivées les plus émouvantes, celle des délégués du Vietnam.
Nothing to say. Nothing. Of France, nothing to say.
No.
Really not.
No.
For leaving Geneva to Switzerland, perhaps?
Non, je n'ai rien à déclarer. Merci.
Tran Van Do, ministre du Sud-Vietnam.
Si ce n'est ma tristesse et ma douleur.
Mr. Eden, do you...
No. Thank you very much. I have nothing to say. The work is finished. I hope it will work out well.
Thank you, Mr. Eden. Le travail est fini. J'espère que tu iras bien, dit Monsieur Eden, qui saluant de la main et sous les bravos de la foule, prend place dans la voiture britannique.
Attention, France !
Monsieur le Président.
Pierre Mendès France.
La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Songeons ensemble à ceux qui, hélas, ne reviendront pas, à ceux qui sont restés meurtris dans leur chair et dans leur cœur. Que notre pensée se tourne aussi vers ceux qui ont un être aimé, exposé sur le front, ou prisonniers, et dont les angoisses vont cesser. C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je n'ai pas besoin d'exprimer les sentiments que j'éprouve, car ce sont les vôtres.
Vous-même, Claude Chesson, je suppose que vous étiez ému ce 21 juillet.
J'étais naturellement très ému, aussi pris dans un tourbillon. Je ne crois pas que j'étais capable de réflexion générale importante. Très ébloui par ce président du Conseil. Satisfait qu'on ait abouti, que cette étape-là soit franchie. Mais ne sachant pas très bien comment la suite allait se dessiner, ni pour moi, ni surtout sur les sujets dont je m'étais occupé. À ce moment-là, je ne savais pas que Mendès, après m'avoir envoyé en Indochine, passé quelques 15 jours,
me mettrais sur d'autres dossiers futurs post-coloniaux, si je peux dire, et en particulier sur la Tunisie.
Immédiatement après Genève, Mendès France s'attaque à un autre problème laissé en suspens par ses prédécesseurs, celui de l'Afrique du Nord. Depuis des mois, les protectorats français de Tunisie et du Maroc sont en effervescence. La France y a multiplié les maladresses. En arrêtant Bourguiba en Tunisie et en déposant le roi du Maroc, elle a provoqué une vague de terrorisme qui frappe les Européens. Le 31 juillet, 10 jours après Genève, Mendès France crée la surprise et ramène le calme en se rendant à Carthage, où il accorde aux Tunisiens l'autonomie interne, première étape vers l'indépendance.
C'est de Tunis que vous parviendra ce très court message. De Tunis, où un devoir impérieux m'a appelé pour quelques heures. Au cours des dernières semaines, tandis que je m'efforçais de mettre fin à une guerre atroce, je pensais que tout près de chez nous, depuis des mois et des mois, le sang coulait. Le sang de Français et de Tunisiens, unis cependant par un long passé, mais séparés maintenant par d'inadmissibles malentendus. Des solutions que je crois bonnes, des solutions qui sont les seules possibles, ont été élaborées patiemment. Je suis venu aujourd'hui à Tunis pour proposer ces solutions. J'espère avoir été entendu. L'avenir de la Tunisie dira, je n'en veux pas douter, que sur cet antique pays, qui devient en union féconde avec la France un pays moderne, auront triomphé tout à la fois aujourd'hui la raison, le progrès et la paix.
1er août 1954, le président du Conseil est rentré cette nuit de Tunis, où un avion l'avait déposé à 10h du matin. Vie exténuante. Y résistera-t-il? Mais c'est ce tempo qui, pour l'instant, le rend invulnérable. Un ministère se tire opposé. Les meilleurs fusils ne sauraient l'abattre en plein vol. Cela fait frémir pourtant de voir qu'un ministère de salut public comme est celui-là soit si peu assuré d'une majorité stable. François Mauriac, bloc-notes.
La rapidité avec laquelle Mendès France a réglé les problèmes indochinois et tunisiens ont fait de lui, en 2 mois, le chef de gouvernement le plus populaire de la 4e République. Trop populaire même, dans ce régime où l'on n'aime pas les têtes qui dépassent. Les députés l'attendent au tournant. Dès le mois d'août, la majorité parlementaire se lézarde, surtout quand le président du Conseil aborde le dossier le plus délicat, la CED, la Communauté européenne de défense. Ce projet d'armée européenne empoisonne depuis 2 ans la vie politique française. Créé par le traité de Paris, signé en 1952 par 6 pays, dont l'Allemagne fédérale et la France, la CED n'existe encore que sur le papier. Il faut qu'elle soit ratifiée par les parlements nationaux. Lorsque Mendès France arrive au pouvoir en 1954, le Parlement français ne l'a toujours pas ratifié. Aucun président du Conseil n'a encore osé le présenter aux députés, tant il divise la classe politique. Les gaullistes, les communistes, la moitié des radicaux et des socialistes sont contre la CED parce qu'elle permet le réarmement de l'Allemagne et compromet l'indépendance nationale. En face d'eux, les partisans de la CED, les cédistes, militent avec ferveur pour cette armée supranationale qui doit, selon eux, réconcilier l'Allemagne et la France et protéger l'Europe du danger soviétique. Parmi ces Européens convaincus, les députés du MRP, dont le président Pierre-Henri Tetjen, avait demandé à Mendès France, dès le mois de juin, de faire ratifier la CED par l'Assemblée. Pierre-Henri Tetjen.
Pierre Mendès France est une des intelligences exceptionnelles que j'ai eu l'honneur de connaître au sein du gouvernement de la France de la Libération à sa mort. Rigueur, fermeté, loyauté vis-à-vis de lui-même et des hommes et des autres, tout cela était indiscutable. Par conséquent, je n'avais que sympathie et admiration pour cet homme d'une qualité qui n'était pas ordinaire. Arrive 1954, il est investi, il est désigné comme candidat à la présidence du Conseil par le gouvernement de la République. je m'en souviens comme si c'était hier, il m'a immédiatement appelé en tant que président du MRP, qui constituait l'un des groupes les importants de sa majorité espérée. Et très clairement, j'ai compris qu'il m'offrait d'entrer dans ce gouvernement. Alors ce que je lui ai dit n'a pas été dicté par l'intérêt personnel. C'est véritablement ce que je pensais en conscience. Je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, Monsieur le Président, que faites-vous de l'Europe et du traité instituant l'armée européenne, la CED ? L'heure est venue, vous ne pourrez plus mettre le problème de côté. Qu'est-ce que vous allez faire ? Il m'a dit, jamais je ne présenterai ce traité sous cette forme. Je lui ai dit, Monsieur le Président, dans ces conditions, je ne suis pas à votre disposition et je peux vous laisser entendre clairement que le MRP vous combattra.
Je me consacre maintenant à la question de la CED. Cette question, je l'aborde avec la conscience qu'elle touche aux fibres profondes de notre sensibilité nationale. Elle ne divise pas seulement les Français entre eux, elle déchire chacun d'eux intérieurement. Comment la perspective du réarmement de l'Allemagne laisserait-elle en effet indifférents les hommes et les femmes de notre génération ? Je comprends qu'on se passionne pour des thèses qui mettent en jeu des intérêts si élevés. Les uns n'ont en vue que la construction de l'Europe, l'idéal d'un avenir réalisé dans l'union et la fusion de peuples qui se sont trop longtemps affrontés. Les autres sont animés par la crainte d'un amoindrissement de la France au sein d'une nouvelle communauté. Ils redoutent que notre pays affaibli ne puisse y défendre ses intérêts propres ni maintenir intact son génie national. Il me semble, quant à moi, que des objectifs aussi nobles et des préoccupations aussi légitimes ne sont pas forcément inconciliables. La question est de mesurer, selon une parole de Victor Hugo, la quantité d'avenir qu'on peut introduire dans le présent.
Mendès France est conscient des difficultés qui l'attendent, mais il ne veut pas éluder le problème de la CED. D'autant que les partenaires de la France s'impatientent. Le secrétaire d'État américain, Foster Dulles, qui veut le réarmement allemand, est prêt à régler la question avec ou sans la France. Mendès France le sait, il faut crever l'abcès. Du 19 au 23 août, il rencontre à Bruxelles les partenaires de la France et essaye en vain d'amender le traité de Paris pour pouvoir le faire ratifier par le Parlement français. C'est un échec. Alors, de guerre lasse, les 29 et 30 août, le projet de CED est présenté tel quel aux députés. Mendès sait qu'il n'y a pas de majorité pour le ratifier. Il le présente donc sans engager la responsabilité du gouvernement devant cette assemblée survoltée et quelques journalistes effarés par la violence du débat. Jacques Fauvet, correspondant du Monde, se souvient du jour où la CED a été définitivement enterrée par 319 voix contre 264.
J'ai assisté à un débat qui a déchaîné les passions. Je revois Guy Mollet qui, pour être plus libre, parce que la moitié du groupe socialiste était contre le traité, l'autre moitié pour. Guy Mollet était pour. Et je le revois, il avait quitté les rangs socialistes, il était monté en haut de l'hémicycle et il criait littéralement et il secouait son pupitre pour faire du bruit, pour interrompre Mendès France. Pour lui, c'était vraiment un débat non seulement passionnel, mais passionné. Il a déchaîné beaucoup plus que sur la politique en Afrique du Nord, les passions sur la CED.
C'est là que j'ai assisté, triste et apitoyé, à l'intervention d'Edouard Herriot.
Jean-Marie Soutou.
Qui ne pouvait presque plus bouger. Que les adversaires de la CED avaient traîné là. Qui parlait de sa place. Je le vois encore. Énorme. Ayant gardé sa belle élocution, célèbre sous la Troisième République, mais ce qu'il dit, pour moi, est, je cherche le qualificatif le plus respectueux de sa mémoire, est obsolète, dépassé, relève des mythologies françaises les plus désuètes.
On parle d'amodiation, d'amendement, de protocole. Mieux vaut dire la vérité. Le conflit n'est pas un débat de forme, c'est un conflit de fond. Pour nous, laissez-moi le dire comme je le pense, au terme de ma vie, la communauté européenne, c'est la fin de la France. Édouard Herriot.
J'avais un goût de cendre dans la bouche, assistant à ce spectacle, de cette espèce de cadavre qu'on avait exhumé pour le dernier couplet de son éloquence. Il était à côté de la question. En fait, pendant ce débat, je rappelle au passage que, tout proche de Mendès, je ne l'ai pas entendu dire qu'il avait honte, non pas du débat, mais d'avoir fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire de ne pas s'engager, engager la responsabilité du gouvernement, pas du tout. Ce n'était pas du tout son état d'esprit. Et d'ailleurs, il n'a pas manqué de dire à Herriot que Herriot, qui n'avait jamais été hostile aux Allemands, qui avait toujours estimé qu'il fallait une certaine harmonie entre la France et l'Allemagne, pas manqué de dire que le véritable Européen, dans tout ça, c'était peut-être lui, et non pas ceux qui faisaient profession de l'être.
Alors on me dit...
Pierre-Henri Tetjen.
On me dit... Oui. Sur la question de la CED, tout de même, le problème était extrêmement délicat... Il y avait tout de même de bonnes raisons pour hésiter, et même pour ajourner, et même pour refouler. Mais, sur le reste, vous savez bien que Mendès-France était fondamentalement européen. Eh bien, Mendès-France était fondamentalement anti-européen, et j'en ai la preuve. En 1958, est venu devant l'Assemblée nationale le projet de ratification du traité instituant la Communauté économique européenne. Il ne s'agissait plus d'armée à ce moment-là. Il ne s'agissait plus de défense nationale. Il s'agissait de marché, d'économie, de libéralisme économique. Mendès a été le seul de son groupe à voter contre. Même de cette Europe des marchands, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Et il était fondamentalement contre l'unification d'Europe.
Si nos partenaires sont déçus... Parce que notre réponse sur la CED, après avoir tant tardé, s'est avérée finalement négative. Du moins, nous n'avons plus à souffrir du discrédit qui entoure fatalement ceux qui n'osent dire ni oui ni non, et ceux qui, en demeurant immobiles, arrêtent la marche des autres. Certes, on critique la décision de l'Assemblée nationale, mais on a cessé enfin au dehors de tourner notre impuissance en dérision. De cela, un peuple fier ne peut que se trouver soulagé et plus apte, par là même, à envisager la suite avec la gravité qui convient et avec la volonté qu'il faudra pour construire.
Après l'échec de la CED, les instructions qu'il m'a données ont toujours été de chercher avec les Européens, mais en particulier avec l'Allemagne, les bases d'une entente en profondeur. Et il a, par les accords de Paris, jeté les bases de ce qui allait devenir une réelle entente franco-allemande. Et je crois qu'on peut dire que ce qu'il a fait à ce moment-là, par les accords de Paris, a constitué le polygone de sustentation de toute la politique du général de Gaulle après 1958 avec le chancelier Adenauer. C'est parce que une issue positive à l'échec de la CED avait été obtenue, parce que nous n'étions pas restés sur la manifestation d'un ressentiment anti-allemand chez les Français, mais que nous avions au contraire accepté que la République fédérale entre majeure dans l'alliance occidentale, que plus tard, de Gaulle et Adenauer ont pu faire ce qu'ils ont fait, et que le président de la République actuelle continue, en tout cas jusqu'à nouvel ordre.
Un même jour, on peut dire un jour d'histoire, on a vu la ratification générale des accords de Paris. Accord des quatre d'abord. Paraphé au Quai d'Orsay par messieurs Mendès-France, Eden, Adenauer et Dulles, qui fait de l'Allemagne fédérale un État souverain. Accord des neuf, aussitôt après, dans la même salle. Par cet accord, l'Allemagne, redevenue souveraine, est conviée en même temps que l'Italie à participer au traité de Bruxelles, qui, ainsi étendu, a donné naissance à l'Union de l'Europe occidentale et, sous condition, permet le réarmement allemand.
N'ayant pas engagé sa responsabilité sur la CED, Mendès France reste donc au pouvoir. Mais il doit compter désormais avec une opposition plus forte et plus déterminée que jamais à saisir la première occasion pour le renverser. Les jours du gouvernement sont déjà comptés lorsque le 1er novembre 1954, une organisation inconnue, le FLN, organise une trentaine d'attentats dans les trois départements français d'Algérie. C'est le début d'un conflit dont personne, pas même Mendès France, ne mesure encore la gravité. Jean-Marie Soutou.
Je ne pense pas me tromper en disant qu'en novembre 1954, personne n'est conscient du développement que va prendre cette première révolte. On ne disait même pas soulèvement. Je crois donc qu'il n'y a pas prise de conscience de l'ampleur que va prendre l'affaire algérienne.
Vous voulez dire chez Mendès France lui-même ?
Chez Mendès France lui-même. Pas de l'ampleur sur le terrain.
Intervention de Pierre Mendès France à l'Assemblée nationale le 12 novembre 1954. Des forces de sécurité supplémentaires et des renforts militaires ont été immédiatement envoyés sur place dans les heures mêmes qui ont suivi les premiers attentats. D'autres sont acheminés en ce moment. D'autres viendront encore. Vous pouvez être certain, en tout cas, qu'il n'y aura aucun ménagement contre la sédition, aucun compromis avec elle. Chacun, ici et là-bas, doit le savoir. On ne transige pas lorsqu'il s'agit de défendre la paix intérieure de la nation, l'unité, l'intégrité de la République. Les départements d'Algérie constituent une partie de la République française. Ils sont français depuis longtemps et d'une manière irrévocable. Il n'y a pas de sécession concevable. Cela doit être clair une fois pour toutes et pour toujours, aussi bien en Algérie et dans la métropole qu'à l'étranger.
Malgré les mesures libérales que souhaite Mendès France en Algérie, l'homme des accords de Genève et du discours de Carthage n'envisage donc pas d'autre solution que la force pour réduire le FLN. La guerre d'Algérie commence. Elle entraînera bientôt la chute du gouvernement. Mais en novembre 1954, Mendès France accorde plus d'importance au voyage qu'il effectue aux États-Unis du 13 au 23 novembre.
Ici Orly. Monsieur Pierre Mendès France est arrivé à l'aérodrome d'Orly à 3h moins 10, venant de New York. Il a été accueilli par les membres du gouvernement et plusieurs personnalités. Le président du Conseil, apparemment fatigué mais d'excellente humeur, a dit ensuite qu'il voulait se reposer un mois. Les journalistes et quelques ministres qui l'entouraient manifestèrent alors très visiblement leur incrédulité en pensant à toutes les tâches qui attendent le chef du gouvernement. Aussi, monsieur Mendès France se reprit-il et ajouta qu'il voulait rentrer chez lui et là se reposer au moins jusqu'à lundi. Ses prétentions plus modestes au repos parurent recueillir l'assentiment soulagé de M. Edgar Faure, qui assurait l'intérim de la présidence du Conseil en l'absence de M. Mendès France. Cela dit, il est beaucoup plus probable encore qu'en fait de repos, M. Pierre Mendès France va se plonger d'urgence dans ses nombreux dossiers, en particulier le dossier tunisien. Notons encore que l'avion de M. Mendès France a battu le record de vitesse commerciale New York-Paris en 9h47, précédent record par Air France également, 9h56. Ici Orly, Radiodiffusion Télévision Française.
Ce que je crains parfois, c'est que le président du Conseil, dégoûté et là, perde conscience de cet espoir qu'il incarne pour tout un peuple et que, de lui-même, il quitte le jeu. Je le connais trop peu pour en être sûr, mais je doute qu'il soit un animal politique au sens parlementaire du mot. Je le crois d'une autre espèce que les carpes du Palais Bourbon qui chérissent leur profonde boue. Je le vois plutôt comme un homme qui s'efforce de sculpter le réel à l'image de ses pensées. Mais cette glaise parlementaire n'est pas inerte. Elle grouille d'intérêt et de passion. François Mauriac, bloc-notes.
Depuis le débat sur la CED, l'opposition exploite toutes les occasions pour ternir le gouvernement avant de le renverser. En septembre 1954, on apprend qu'une haute personnalité aurait transmis au Parti communiste des procès-verbaux de réunion du Comité de défense nationale. C'est l'affaire des fuites. Les adversaires de Mendès France cherchent en vain à y compromettre deux de ses ministres, le ministre des Finances, Edgar Faure, et surtout le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand. « Les couteaux s'aiguisent », écrit Mauriac. Ils vont frapper le 3 février 1955, lorsque s'ouvre à l'Assemblée un débat sur la politique algérienne du gouvernement. Jean-Marie Soutou.
Il est clair que la discussion sur l'Afrique du Nord était un prétexte. Il fallait se débarrasser de cet homme. Je ne sais pas s'il est vrai que Tedjen a dit « c'est ce soir ou jamais ». Probablement qu'il ne l'a pas dit, je le connais. Je le connais depuis les temps de la résistance, ce n'est pas sa manière. Mais en tout cas, c'était bien ça. L'atmosphère, c'était bien ça. Il fallait se débarrasser de Mendès. Il avait plus ou moins réglé les affaires d'Indochine. Il avait sorti l'affaire européenne de l'ornière. Donc, il fallait s'en débarrasser.
Déjà, les conjurés se sont donné le mot. Déjà, sa perte est résolue. L'endroit où l'abattre choisi. Tout sera prétexte à interrompre cet effort à la fois passionné et médité du seul homme politique, depuis la Libération, qui n'est pas souscrit aux mots que Barrès mettait dans la bouche d'un parlementaire dans « Les déracinés ». On ne nous demande pas que nous fassions quelque chose, mais que nous occupions la place pour empêcher d'autres de faire des choses. François Mauriac.
On a parlé contre Pierre Mendès France en février 1955 d'un véritable complot dont vous auriez été une des chevilles ouvrières, Pierre-Henri Tedjen.
Je ne réponds pas à pareille question. C'est tellement ridicule que ça ne mérite pas de réponse. Un complot avec qui? Un complot contre Mendès France? Monsieur Lacouture a donné crédit avec prudence à cette histoire en racontant que dans les heures qui précédaient le scrutin, j'avais dit très fort et à plusieurs reprises, ce soir ou jamais. Eh bien, monsieur Lacouture, pour une fois, n'a pas été un bon historien parce que c'est pas vrai. Voilà. Alors, c'est tout. Enfin, je n'avais aucune rancune particulière contre Mendès France. Je désapprouvais sa politique extérieure. Je ne cessais de la désapprouver. Je le faisais au grand jour. Et je n'avais pas besoin de comploter. D'ailleurs, je suis, comme je suis, avec beaucoup de défauts, mais je suis un mauvais comploteur. Vous savez, je n'ai pas les qualités qu'il faut pour ça.
André Bettencourt, est-ce que vous vous souvenez du débat qui a mis un terme au gouvernement Mendès France dans la nuit du 4 au 5 février 55?
Je me souviens très bien de ce moment, qui fut très pénible. N'est-ce pas? Le fond de l'affaire, c'est que la guerre d'Indochine était terminée, et que par conséquent, on n'avait plus besoin de lui. Il avait été battu, et il avait décidé, étant battu à l'Assemblée nationale, de remonter une dernière fois à la tribune pour une sorte de testament politique. Ce n'était pas sans grandeur. Alors il m'en avait parlé la veille, il m'avait fait lire son texte, et moi qui étais un peu jeune et inexpérimenté, je lui avais quand même dit « mais c'est tout à fait contraire aux usages ». Mais j'avais lu son texte avec lui, c'était quand même un texte très solide et même très beau, et puis vous savez, c'était un grand orateur, il avait tout de même un ton très... il se faisait entendre et comprendre. Et je lui avais dit, pour ne pas le décourager totalement, « peut-être qu'avec vous, ça passera ». Mais en fait, ce fut terrible. Il monta à la tribune. Ce fut d'abord un sentiment de stupéfaction, un silence total.
Et quand on a vu, j'étais là, remonter Mendès France à la tribune de l'Assemblée, alors qu'il venait d'être battu, on a estimé, notamment du côté de la droite, qu'il violait le règlement, qu'il violait la Constitution. On a même crié à l'adresse de Mendès France, je revois M. Bouxhomme notamment, criant « fasciste ». Il traitait Mendès France de fasciste parce qu'il était remonté à la tribune alors qu'il venait d'être renversé, avec l'accord du président de l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs était MRP. Ce n'était donc pas apparemment contraire au règlement, simplement c'était contraire à l'habitude.
Mesdames, Messieurs, il n'est pas d'usage qu'un président du Conseil auquel la majorité de l'Assemblée nationale a refusé la confiance demande encore une fois la parole. Mais si, avant de présenter à M. le Président de la République la démission du cabinet, je monte à la tribune pour faire une très brève déclaration. Ce n'est pas, soyez-en certains, pour élever la moindre récrimination. Sur l'Afrique du Nord, objet de ce débat, je me garderai de dire un mot qui puisse gêner ceux qui nous succéderont et qui auront à remplir des tâches dont nous avons mesuré la difficulté. Un si haut intérêt de notre avenir africain ne doit pas dépendre du sort d'un ministère. Je le dis pour que cela soit entendu, non seulement ici, mais au dehors. Non. Le travail accompli ne sera pas effacé, ni dans ce domaine, ni dans aucun des autres. Ou durant ces derniers mois, il a
Mais il n'en était pas à sa troisième phrase que ce fut un tumulte considérable. Tous les députés étaient debout, s'invectivaient. J'étais au banc du gouvernement. Un député de Lyon me prit par le revers du veston, me traita de sale juif. Je n'en revenais pas. C'était une explosion de haine.
Ce qui a été fait dans ces 7 ou 8 mois restera. Ce qui a été mis en marche dans ce pays ne s'arrêtera pas. Les hommes passent, les nécessités nationales demeurent. Et la nation, qui en a pris conscience, comment oublierait-elle ces espoirs qui ont été ranimés ?
Les mots qu'il s'agissait, le ton sur lequel il les prononçait était particulièrement agressif et quelquefois particulièrement blessant pour les gens à qui il s'adressait. Il y avait chez lui une précision dans l'invective par moment qui pouvait être très blessante. Si on regarde attentivement ce qu'il a dit, évidemment, c'était très fort de café pour ses interlocuteurs. Il y avait là une résonance qui pouvait, aux esprits mal intentionnés, donner des arguments en disant « c'est un acte qui n'est pas conforme, sinon à nos lois, du moins à nos mœurs parlementaires ». Parce que qu'est-ce qu'il dit ? C'est une espèce d'appel à la nation. C'est le péché contre l'esprit, c'est le péché sans rémission. Un appel à la nation par-dessus la tête du Parlement.
Comment penser que la nation perdra le goût de la vérité maintenant qu'elle le connaît ? Amère parfois, mais toujours salubre, maintenant qu'elle sait que les efforts et les peines du présent...
À ce moment-là, lorsqu'il y a cette opposition de la nation au Parlement, alors c'est là que le vacarme devient assourdissant, les pupitres claquent de tous côtés, et même moi, là, je n'arrive pas à noter, j'ai regardé mes notes, je n'arrive pas à noter les phrases qui sont... proféré par un Mendès de plus en plus noir, de plus en plus à la fois noir et livide, et qui vraiment passe par des moments très douloureux pour lui. Et puis il va aggraver son cas aussi par une phrase que j'ai entendue autour de moi, qu'on a lui reproché beaucoup. « Entre patriotes, nous saurons donner à ce pays des raisons d'espérer et de surmonter la haine dont nous avons donné le spectacle. » Vive la France. Alors ça, ça ne passait pas. Vous voyez, c'est l'appel du tribun.
Ce vacarme ne m'empêchera pas de dire que, par le spectacle qu'elle offre, l'Assemblée, au moment où elle vient de renverser le gouvernement républicain, ne se montre pas digne des responsabilités qui sont les siennes. J'espère que demain, dans un climat meilleur et par la bonne entente de tous les patriotes, nous saurons donner à ce pays de nouvelles raisons d'espérer et que nous surmonterons la haine dont trop souvent ici nous avons donné le spectacle. Vive la France !
Le soir de la chute, donc nous sommes déjà le 5 février, puisque minuit est passé, le 5 février, j'ai quitté Mendès vers 6h30. Après cette journée atroce et épuisante, je suis rentré chez moi. Je me souviens que ma femme m'a dit, tu allais vite, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais épuisé, mais surtout, j'étais écœuré, car j'avais vu monter toute une boue de démagogie, de haine recuite, de vengeance personnelle, d'ambition plus ou moins satisfaite. Et le spectacle était absolument navrant. Et quand se sont produits les événements de 58, je n'ai pas été surpris.
Pierre-Henri Tedjène, à votre avis, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Mendès France? En quoi, selon vous, a-t-il pu marquer, comme il a marqué? Il y a peu de gouvernements qui ont marqué, comme le sien, l'histoire de la 4e République. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en lui?
Eh bien, il s'est passé que ce que vous appelez son style et sa rigueur de surface plus que de fond ont frappé dans un monde où la négociation, la prudence, l'astuce avaient les faveurs du public politique. Je dis sa rigueur apparente de propos et de discours plus que sa rigueur de fond. Parce que jamais, 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 dans l'histoire de France, on a vu un gouvernement renoncer à prendre position sur un traité qui engageait l'avenir et le destin du pays d'une manière aussi profonde. Cet homme de rigueur qui décidait et puis immédiatement exécutait, quand la question était posée de savoir si on ratifiait la CED ou si on ne la ratifiait pas, s'est contenté de dire que le gouvernement s'abstenait. Eh bien, mon cher monsieur, moi, si je vous dis, je vous assure que si j'avais une fois tenu de pareils propos, j'aurais été honteux. C'est pas de la rigueur, ça. C'est de l'astuce parlementaire, au suprême degré.
Qu'est-ce qui, selon vous, Jacques Fauvet, fait de Pierre Mendès France un des présidents du Conseil, même peut-être le président du Conseil, qui a le plus marqué la 4e République?
Avec Antoine Pinet, pour les mêmes raisons, parce que l'un et l'autre étaient des hommes hors série. Ce n'étaient pas ceux qu'on avait vus depuis 1945, se succéder encore une fois dans les ministères d'abord, à la présidence du Conseil ensuite, et pourquoi pas à la présidence de la République. Et que l'un et l'autre, dans des genres très différents, avaient créé un style nouveau de gouvernement. Antoine Pinet s'adressait aussi directement au pays, comme Mendès France. Leur politique tranchée avec la politique précédente, mais dans des sens assez différents quand même. Donc il y avait des similitudes, bien que Mendès France fût de gauche et Antoine Pinet de droite. C'était des hommes hors série.
André Bettencourt, en février 1955, Pierre Mendès France est donc renversé avant d'être remplacé par un autre membre du Parti radical, Edgar Faure. On dit que sa chute est moins due à sa politique qu'à son caractère.
Le président était une personnalité qui composait peu. Quand il avait une idée en tête, il s'y tenait. Ce fut sa grandeur et peut-être aussi son malheur, et le nôtre, qu'un homme d'une telle valeur n'ait pu gouverner que 7 mois et quelques jours. Cela restera au passif de la République.
Je dirais que ses aspérités m'amusaient.
Jean-Marie Soutou.
Je regrettais qu'elles soient quelquefois si vives, parce que je suis d'instinct du côté de celui qui est humilié. C'est à la fin du congrès du Parti radical à Marseille. Vous savez, il y a un épisode où Herriot s'incline devant la personne de Pierre Mendès France. Enfin, il lui transmet le flambeau, la présidence du Parti radical. Donc Mendès vient d'être élu président du Parti radical. C'est l'hiver, il fait froid. Ils vont au vestiaire et Edgar Faure prend le manteau de Mendès et l'aide à l'enfiler. Mendès laisse simplement tomber déjà Edgar. Alors, quand on pense à ce que Edgar pouvait représenter pour Mendès, il avait absolument besoin. Et la piqûre, la blessure, incicatrisable, impardonnable, Edgar ne lui a jamais pardonné.
Monsieur Edgar Faure a réussi. L'Assemblée nationale lui a accordé la confiance par 369 voix contre 210. Ouverte voici 19 jours, la crise ministérielle est donc terminée et le nouveau président du Conseil a pu présenter à M. René Coty son gouvernement qui réunit avec des radicaux, des modérés comme M. Pinet, des MRP comme M. Robert Schuman, des républicains sociaux comme le général Koenig. Nanti de la confiance de l'Assemblée, M. Edgar Faure va maintenant se mettre au travail.
Thank you.
C'était 18 juin 1954, Mendès France au pouvoir. Avec les témoignages de Jacques Fauvet, Jean-Marie Soutou, André Bettencourt, Claude Chesson, Pierre-Henri Tedjen. Texte lu par Pierre Pérou. Archives sonores de l'INA et documentation réunies par Philippe Caffin, Annie Saulnier, Rebecca de Nantes. Mixage, Pascal Bénard et Pierre Bornard. C'était L'Histoire en direct, une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Christine Bernard-Sugy.
Cette émission a été diffusée la première fois le 4 février 1991 sur France Culture.